Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, au sommaire ce soir. Ici aux États-Unis, le président Trump va recevoir à la Maison-Blanche des responsables républicains au Congrès pour définir son programme des 100 premiers jours. Nous revenons également sur la série de décrets que le président Trump a signé dès hier et les réactions à travers le monde. En République démocratique du Congo, l'armée reconnaît une percée des rebelles du M23. Législative au Tchad, la victoire du parti au pouvoir confirmée. Et puis également dans un peu plus de 10 minutes, la page sport avec Yacouba Ouédraogo. Mais d'abord, le journal. Donald Trump entame ce mardi la deuxième journée de son retour à la Maison-Blanche après avoir signé une myriade de décrets. Il rencontre des responsables républicains aujourd'hui pour évoquer son programme des 100 premiers jours. Alexandrine Rolognon.
Le président américain s'est rendu dans la matinée à la cathédrale nationale de Washington pour un service religieux après les cérémonies de la veille. Ensuite, place de nouveau aux affaires politiques. Le président recevra à la Maison-Blanche en début d'après-midi des responsables républicains au Congrès avec le programme des 100 premiers jours au menu des discussions. Une annonce majeure sur l'infrastructure sera aussi faite dans la journée, a déclaré ce matin sur Fox News la nouvelle porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, sans donner plus de précisions. Le président Trump parlera à la presse plus tard depuis la Maison-Blanche, a-t-elle ajouté. Par ailleurs, les partisans de Donald Trump qui ont attaqué le Capitole il y a 4 ans ont commencé à sortir de prison ce mardi à la suite des grâces massives accordées par le président nouvellement investi.
Dès le premier jour de son nouveau mandat, le président Trump a donc signé hier une série de décrets portant sur des sujets aussi divers que l'immigration, le climat ou encore la diversité. Un résumé des principales mesures avec Jacques Aristide.
Dans la soirée d'hier à la Maison-Blanche, le président Donald Trump a paraphé un décret déclarant l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique, promettant d'arrêter sans délai ce qu'il a qualifié d'horrible invasion de clandestins et de renvoyer des millions d'entre eux dans leur pays d'origine. Plus de 1500 participants à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 ont été graciés. Pour les 14 autres personnes condamnées, leur peine est commuée en peine de prison déjà purgée. Comme promis lors de sa campagne, le président républicain a signé un décret affirmant que le gouvernement américain ne reconnaîtra plus désormais que 2 genres biologiques, masculin et féminin, définis à la naissance. Un autre décret vise à mettre fin à toutes les initiatives du gouvernement fédéral en faveur de la diversité et de l'égalité, au profit, a-t-il dit, de la seule méritocratie. Reprenant une mesure emblématique de son premier mandat, Donald Trump a fait état du retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. L'occupant du bureau ovale a également signé un décret déclarant un état d'urgence énergétique pour doper la production d'hydrocarbures aux États-Unis. Devant la foule de ses partisans à la Capital One Arena de Washington, Donald Trump a signé un décret qui impose aux fonctionnaires fédéraux de revenir travailler au bureau à plein temps avec effet immédiat, mettant ainsi fin au dispositif de télétravail généralisé mis en place durant la pandémie de Covid-19. Autre décret surprise, le retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Le président Trump a justifié cette décision en affirmant que Washington contribuait davantage financièrement que Pékin à cette agence onusienne, ce qu'il considère comme inacceptable. Le président américain a signé un décret ordonnant à son gouvernement de suspendre pour 75 jours l'application de la loi interdisant le réseau social TikTok aux États-Unis. Il a révoqué un décret de son prédécesseur Joe Biden qui avait permis de sanctionner des colons israéliens accusés de violence contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée, a indiqué la Maison-Blanche hier. Le président Trump a aussi annulé la décision de retirer Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme, annoncée il y a quelques jours par l'administration Biden dans le cadre d'un accord pour la libération de prisonniers politiques.
Les décisions de Donald Trump, marquées par le protectionnisme, l'isolationnisme et le rejet des accords multilatéraux, ont suscité des réactions à travers le monde. L'Union européenne, la Chine et l'Ukraine notamment ont exprimé leurs préoccupations. Jean-Roger Bion.
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a insisté sur l'importance de protéger les intérêts européens, en particulier sur des sujets tels que l'accord de Paris sur le climat que Trump a de nouveau rejeté. En conséquence, l'Union européenne a annoncé vouloir approfondir ses relations avec l'Inde et la Chine pour contrer les effets du protectionnisme américain et continuer à prôner la coopération multilatérale. Du côté chinois, le vice-premier ministre Ding Zhuxiang a affirmé que les guerre commerciale ne bénéficie à personne. En Ukraine, les décisions de Trump suscitent une grande inquiétude. Le président Volodymyr Zelensky, qui dépend du soutien militaire et économique américain, espère que l'administration Trump maintiendra son aide dans le contexte de la guerre avec la Russie. L'Union européenne a également exprimé sa préoccupation face à la décision des États-Unis de se retirer de l'Organisation mondiale de la santé. Bruxelles espère que cette décision sera reconsidérée. En parallèle, des dirigeants européens comme le chancelier allemand Olaf Scholz ont mis en garde contre les positions radicales et isolationnistes, soulignant l'importance de préserver les valeurs démocratiques et la coopération internationale.
Le président Trump a signé hier un décret qui suspend temporairement tous les programmes d'aide étrangère des États-Unis pendant 90 jours, le temps qu'ils soient examinés pour déterminer s'ils sont conformes à ses objectifs politiques. Le journaliste et analyste politique Louis Magloire Comayou estime que cette décision n'est certes pas une bonne nouvelle, mais elle place les pays africains face à leurs responsabilités quant à la gestion de la dette et l'enjeu au développement. Nous l'écoutons.
Je pense que pour les pays africains, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que les entrées en devises sont toujours importantes. Les programmes de coopération à la fois économique, politique et diplomatique qui lient les pays africains aux États-Unis sont importants. Mais de l'autre côté, il y a une nécessité pour l'Afrique de déterminer par elle-même les leviers par lesquels elle va obtenir son développement. Et je crois que le commerce intra-africain et le développement endogène sont aujourd'hui des défis auxquels les pays africains doivent faire face. Et à côté de ça, il y a aussi l'enjeu de la dette qui fait que plus on aide, moins on rembourse et plus l'équation de l'aide au développement est difficile à résoudre. Et donc, si quelque part aujourd'hui, toute la politique de développement du continent africain est basée sur l'aide publique au développement, c'est un coup de semonce qui amènera chacun des États africains à reconsidérer sa position et à estimer que le développement est d'abord endogène.
Des réactions qu'on a recueillies sur le continent africain, sur les rapports entre les États-Unis et l'Afrique, avant l'investiture de Donald Trump, de nombreux jeunes disent ne rien attendre de nouveau du locataire de la Maison-Blanche. Est-ce que cette suspension de l'aide pourrait pousser les bénéficiaires, notamment en Afrique, à se tourner vers de nouvelles alliances ou de sources de financement?
Cela fait déjà plusieurs décennies que les pays africains sont indépendants. Et donc je crois que quand on vous aide à vous libérer du joug du colonialisme, cela vous engage non seulement à devenir grand et autonome, mais surtout à vous développer de façon autonome.
Mais plusieurs institutions et organisations qui œuvrent en Afrique ont besoin de cette aide pour fonctionner.
Oui, mais ce n'est pas une obligation. L'aide humanitaire n'est pas obligatoire. C'est vrai qu'il y a souvent le devoir d'ingérence humanitaire qui a été intégré dans le concept de la coopération internationale, mais elle n'a jamais été une obligation d'assistance. Donc je considère qu'aujourd'hui, les dirigeants qui ont été élus par leur population ont l'obligation de trouver des solutions endogènes avant d'avoir des appuis en externe qui pourraient amplifier leurs actions.
Mais dans un contexte de concurrence entre les États-Unis et d'autres partenaires étrangers en Afrique, notamment la Chine, est-ce que cette décision ne nuirait pas à la politique étrangère des États-Unis, notamment sur le continent africain?
Non, je ne crois pas que la concurrence oblige à faire tout et n'importe quoi. La concurrence signifie simplement qu'on doit remplacer le quantitatif par le qualitatif. On n'est pas là pour se substituer aux partenaires. Et donc, à partir du moment où les États-Unis estiment que il y a d'autres partenaires qui entrent dans la danse, ces partenaires peuvent intervenir dans d'autres secteurs et eux, ils interviendront dans des secteurs sur lesquels ils s'estiment capables d'apporter des réponses qui soient plus satisfaisantes que celles des autres partenaires.
C'était le journaliste et analyste politique Louis Magloire Comayou. Il était joint par Alexandrine Holonian. La colère gronde ce soir en Turquie, dans la station de ski de Kartalkaya, dans le centre du pays, où l'incendie d'un hôtel de luxe a fait au moins 76 morts et une cinquantaine de blessés. Suite à ce drame, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé une journée de deuil national mercredi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Tchad, le Conseil constitutionnel a confirmé la victoire du parti au pouvoir, le Mouvement patriotique du salut, ou MPS, en annonçant les résultats définitifs des élections législatives de décembre, les premières organisées dans le pays depuis 2011. Le MPS a remporté une majorité écrasante de 124 sièges sur 188. Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'armée congolaise a reconnu ce mardi une percée du M23, le groupe armé qui combat le gouvernement de Kinshasa dans la région. L'ennemi a fait une percée sur Merwe Mana au nord Kivu et Minova au sud Kivu, les deux localités étant distantes de seulement quelques kilomètres, a déclaré le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, dans un rare communiqué des FRDC. Le Parlement de transition au Gabon a adopté hier soir le nouveau code électoral, étape clé vers le retour à un régime civil promis par la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'état de 2023 qui a chassé du pouvoir la dynastie Bongo. Le nouveau texte autorise, selon les médias locaux, les magistrats et militaires à se présenter sous conditions aux élections. Cette disposition est vivement critiquée par certains opposants. Ils craignent qu'elle ne permette à ces professions de s'ingérer dans le processus politique via les armes ou les décisions judiciaires. Au Soudan, 16 civils ont été tués, 18 autres blessés lundi dans un bombardement des paramilitaires contre un camp de déplacés. L'attaque a eu lieu à El Fasher, la capitale du Darfour Nord, qui est assiégée depuis plus de 6 mois par les forces de soutien rapide, les FSR, en guerre contre l'armée régulière depuis avril 2023. Maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Le Genoa annonce l'arrivée en prêt de Maxwell Cornet.
Oui, l'international ivoirien du West Ham a rejoint le Genoa dans le cadre d'un prêt, selon l'annonce faite par le club italien. Maxwell Cornet, qui peut jouer défenseur ou ailier sur l'aile gauche, était depuis le début de la saison prêté à Southampton, où il n'a joué que 4 rencontres. Ancien joueur de Metz, Burnley et Lyon, il a remporté la Ligue Europa Conférence en 2023 avec le club londonien. Âgé de 28 ans, il compte aussi 31 sélections pour 6 buts avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Le Genoa, entraîné depuis fin novembre par le français Patrick Vieira, est actuellement 12e de Serie A. Le plus ancien club de football d'Italie a été racheté en décembre par l'homme d'affaires roumain Dan Suku au fonds d'investissement controversé américain 777 Partners. Selon la presse locale, le club souhaite mettre fin au contrat de l'ex-attaquant international italien Mario Balotelli, écarté par Vieira et qui n'a joué que 57 minutes depuis son arrivée en octobre.
La Ligue des Champions reprend ses droits ce soir en Europe.
Entre autres rencontres, un point suffit au leader Liverpool de Mohamed Salah contre Lille pour assurer sa place en huitième de finale. Autre équipe en verve en Europe, le FC Barcelone, deuxième avec 15 points, se rend à Lisbonne chez le Benfica, 15e avec une qualification pour les huitièmes de finale, également à portée de main, histoire de faire oublier ses malheurs en Liga où il enchaîne les contre-performances depuis fin 2024. De son côté, l'Atlético Madrid de Diego Simeone défie mardi le Bayer Leverkusen du Burkinabé Edmond Tapsoba, machine collective tournée vers l'attaque pour se rapprocher des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une authentique opposition de style pour deux équipes bien placées dans la course au top 8, synonyme de qualification directe pour les huitièmes à deux journées de la fin de la phase de groupe. Jusqu'à samedi, l'Atlético Madrid 11e et 12e en Liga et le Bayer Leverkusen 4e pour 13 points était... Jusqu'à samedi, l'Atlético Madrid 11e, 12 points et le Bayer Leverkusen 4e, 13 points étaient les formations les plus en forme d'Europe avec une série de 15 victoires consécutives stoppées par Leganés 1-0 du côté de Madrid et un 12e succès d'affilée glané contre Mönchengladbach 3-1 pour le Bayer Leverkusen en Bundesliga.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg toujours avec vous. Place au dossier du jour. Le président Donald Trump s'est mis au travail dès son retour à la Maison-Blanche hier, annonçant de nombreux décrets présidentiels sur des questions de premier plan, telles que l'immigration et l'énergie, dans son discours d'investiture. Il a promis d'étendre le territoire américain jusqu'à mars. Le point avec notre correspondante à la Maison-Blanche, Anita Powell, récit Yacouba Ouédraogo.
En ce premier jour historique de son second mandat, le président Donald Trump a exposé sa vision d'une Amérique plus audacieuse et plus grande.
Les États-Unis se considéreront à nouveau comme une nation en croissance, une nation qui accroît ses richesses, étend son territoire, construit ses villes, élève ses attentes et porte son drapeau vers de nouveaux et magnifiques horizons. Et nous poursuivrons notre destinée manifeste dans les étoiles en lançant des astronautes américains pour planter une bannière étoilée sur la planète Mars.
Donald Trump s'est ensuite attelé à la signature d'une série de décrets. Ces décrets comprennent une déclaration d'urgence nationale à la frontière sud qui permettra le déploiement des troupes militaires et une déclaration d'urgence nationale en matière d'énergie qui autorisera l'augmentation de l'extraction nationale. Il a aussi déclaré qu'il n'y avait que deux sexes et qu'il ordonnerait que le golfe du Mexique soit rebaptisé « Golfe d'Amérique ». Les historiens estiment que Trump est entré dans l'histoire en utilisant ce qui est historiquement un discours unificateur pour dépeindre un avenir avec lequel de nombreux Américains pourraient être en désaccord. Jérémy Souri, professeur d'histoire à l'Université du Texas, s'est entretenu avec la VOA depuis Austin via Zoom.
C'était moins un discours d'investiture qu'un discours sur l'état de l'Union. Il s'est contenté d'énumérer une série de projets qu'il souhaitait entreprendre, de l'expulsion des immigrants à la récupération du canal de Panama.
Des milliers de partisans de Trump sont venus à Washington D.C. depuis tout le pays parce qu'ils disent que ces politiques leur parlent. Mélanie Vol, résidente de Cleveland.
Common sense, the bring back of common sense,
le bon sens,
out loud.
Le retour du bon sens à haute voix. Tant de personnes dans ma position ont l'impression d'être la majorité silencieuse. Et je pense que cela va nous donner l'occasion de parler haut et fort et de ne pas avoir peur de dire la vérité et de parler de bon sens.
Peu après son investiture, Trump s'est adressé à un groupe plus restreint de partisans à la Capital One Arena et a réaffirmé que l'élection de 2020 était totalement truquée, une affirmation sans preuve. Il a aussi fait allusion à son intention de gracier certaines des personnes condamnées pour les événements violents du 6 janvier 2021, lorsqu'une foule de ses partisans ont tenté de perturber la certification de l'élection remportée par Joe Biden. Les associations de défense des consommateurs tirent la sonnette d'alarme à propos de certaines mesures plus discrètes du nouveau président qui visent à assouplir les réglementations et qui, selon elles, profitent à une élite. Lisa Gilbert est coprésidente de l'organisation à but non lucratif de défense des consommateurs, Public Citizen.
Lorsque nous réfléchissons aux raisons pour lesquelles la future administration Trump veut geler les réglementations et stopper net les protections publiques, c'est à la demande des plus riches d'entre nous, des intérêts particuliers et des entreprises. Ce sont eux qui profitent de l'absence de garde-fous dans les textes.
Les historiens et analystes affirment qu'il est difficile de savoir combien de mesures prises par Trump dès le premier jour, plus d'une centaine selon ses responsables, seront respectées si elles sont contestées sur le plan juridique.
Alors que les talibans espèrent un nouveau chapitre dans les relations avec les États-Unis sous la présidence de Donald Trump, les analystes estiment que cela dépendra de la capacité des dirigeants afghans à tenir leurs promesses. Reportage de Roshan Nourzai, le récit de Thierry Kaoré.
Le lendemain de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle de 2024, les talibans ont exprimé l'espoir d'un nouveau chapitre dans les relations entre les États-Unis et l'Afghanistan. Une déclaration sur les réseaux sociaux a rappelé que la première administration Trump avait signé l'accord de Doha qui avait conduit au retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Dans un discours prononcé la semaine dernière, le vice-ministre des Affaires étrangères des talibans a salué le président Trump, le qualifiant de dirigeant décisif et courageux. Il a déclaré que les talibans s'attendaient à un changement de politique américaine envers l'Afghanistan sous la direction du président républicain. Sir Mohamed Abbas, vice-ministre des Affaires étrangères des talibans.
Nous espérons qu'il prendra des mesures positives. Nous ferons de même si Dieu le veut. Nous voulons construire de bonnes relations avec la communauté internationale et les pays occidentaux.
Les responsables talibans souhaitent notamment que la nouvelle administration américaine lève les sanctions contre eux et reconnaisse leur gouvernement. Aucun pays n'a encore reconnu les talibans qui ont pris le pouvoir en 2021 après l'effondrement du gouvernement afghan et le retrait des États-Unis du pays. Les analystes affirment que les talibans espèrent s'engager dans des négociations comme celles menées pendant le premier mandat de Donald Trump et qui ont conduit à un accord avec le groupe. Anthony Wayne, ancien ambassadeur adjoint des États-Unis en Afghanistan.
Il est clair que les talibans, certains des talibans qui ont travaillé avec Trump pendant cette période, pensent qu'il existe un terrain d'entente qui sera plus proche de leurs intérêts pour parvenir à une solution. Il nous reste à voir ce que sera ce dialogue et ce qui pourra être atteint.
Mais d'autres affirment que l'on ne peut pas faire confiance aux talibans qui n'ont pas mis en œuvre leur engagement de respecter les droits de l'homme, en particulier ceux des femmes, de former un gouvernement inclusif et de ne pas abriter des groupes terroristes. Annie Forzheimer, du Centre d'études stratégiques internationales.
Donc, au bout du compte, j'espère que la politique sera élaborée en fonction de ce que font réellement les talibans et non en fonction de ce qu'ils disent.
Les experts estiment que l'Afghanistan n'est peut-être pas une priorité absolue pour l'administration Trump, mais ignorer ce pays pourrait avoir un coût élevé. Jonathan Shorden, du Centre d'analyse navale.
Il existe toujours un risque d'exportation de l'extrémisme et de croissance de groupes résilients comme l'État islamique. Il ne faut même pas détourner les yeux de ces groupes, sinon vous ou vos amis en paierez le prix à l'avenir.
Shorden a prévu qu'ignorer l'Afghanistan serait imprudent, mais la question est de savoir dans quelle mesure il convient de se concentrer sur ce dossier à l'avenir.
Au Congo-Brazzaville, la société civile dénonce la léthargie du gouvernement qui continue d'autoriser les exportations du bois en grume, alors que cette activité devrait favoriser l'emploi en milieu jeune. Mais les autorités rétorquent qu'aucun grume ne sort du pays sans contrôle administratif. Plusieurs scieries sont d'ailleurs installées dans les zones forestières. Le reportage de notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
Par Ntam dans le nord et par Pointe-Noire dans le sud, le bois continue à être exporté malgré l'interdiction imposée par les autorités. Emar Ntambou est un ancien exploitant forestier qui reste étonné de voir le bois circuler sur la nationale numéro 1.
Ça va pour l'approvisionnement du marché local dans les scieries. Mais du moins, il y a d'autres sociétés qui exportent toujours le bois. On est agrume et on se pose des questions. Ils ont quel genre de relations peut-être avec le gouvernement ou bien comment ils font. C'est vrai qu'il y a un problème de quota, mais quand nous voyons la quantité qui circule parfois, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a un système que peut-être qu'on n'arrive pas à maîtriser?
À l'entrée du port de Pointe-Noire, le bois arrive par voie spéciale, transporté par les grumiers et les véhicules plateaux. Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Thierry Mungala, toutes ces opérations sont sous contrôle et restent légales.
La nécessité d'avoir maintenu des autorisations spéciales, donc tout est encadré, d'exportation pour un volume global de grumes de 2 011 783 mètres cubes. Et il s'agissait d'aider par ces exportations à la mise en œuvre et au financement d'un certain nombre de projets d'infrastructures qui, par ailleurs, sont attendus par nos populations.
Cet autre exploitant forestier mis au placard par la loi déplore la mesure qui, selon lui, a tué l'activité du bois dans le pays.
Ça a tué le métier, quoi. C'est fini. Ça a complètement détruit les petits métiers du bois, quoi. C'était des mesures sociales. Donc voilà, ça a créé un peu des petits millionnaires. Et aujourd'hui, c'est mort.
Mais pourtant, nombreux se sont adaptés. Ici, à la société Adèle, située à Dolisie, une grosse scierie a été installée et apporte de la valeur ajoutée, notamment de l'emploi, aux jeunes Congolais. Albert Malunga, le directeur du personnel, ajoute même que le bois transformé ici est racheté à d'autres sociétés qui n'ont pas de scierie.
Au premier abord,
on n'avait pas d'usine. On ne faisait qu'exploiter le bois en grume. Et par la suite, on avait vu que autant mieux amener les activités de transformation dans le Niari, qui est le département où on exploite la forêt. C'est sûrement l'avantage pour les jeunes du Niari, pour que ça leur a donné un peu de l'emploi depuis la forêt jusqu'à l'usine. C'est plus qu'on produit, plus que les charges sont supportables.
Dans le village Mumbuti, l'opérateur économique Ayessa installe une nouvelle scierie. Il veut créer des dizaines d'emplois pour les jeunes. Ses partenaires chinois sont à pied d'œuvre pour installer de nouvelles machines. Appréciant l'initiative, Capable Ndembi, ancien forestier, appelle à l'accompagnement de l'État. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire. Au Cameroun, les travaux de la phase 2 de l'autoroute devant relier Yaoundé à Douala n'ont pas encore atteint leur vitesse de croisière. Lancés depuis le 2 octobre dernier, les travaux accusent un retard à cause du processus d'indemnisation des riverains des localités de Ngop, Mapoupi et Dibang dans la région du centre de Yaoundé. La correspondance d'Emmanuel Jules Tap.
Tam dans le nord et par Pointe-Noire dans le sud, le bois continue à être exporté malgré l'interdiction imposée par les autorités. Emar Ntambou est un ancien exploitant forestier qui reste étonné de voir le bois circuler sur la nationale numéro 1.
Le gouvernement évoque les difficultés financières et le retard dans le décret portant indemnisation des riverains de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala, dont le point de départ est situé au village Biboudi, à 60 km de Yaoundé. Les explications du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganoundjou-Messi.
Avec l'entreprise, nous avons donc travaillé à arrêter un tracé suffisamment réduit que nous appelons donc en prise utile qui permette à l'entreprise de commencer les travaux moyennant la libération de cette emprise utile, dont la destruction des biens qui y sont. On va donc passer utilement de 200 mètres à libérer à 100 mètres.
L'entreprise chinoise qui exécute ce projet a été freinée par les riverains lors des travaux de terrassement et de déforestation. Une situation qui a nécessité une rencontre d'explication à Yaoundé entre les parties concernées par le projet de l'autoroute. Cyprien Ngan, chef traditionnel du troisième degré du village Ham à Dibang, dans la région du centre.
Le peu qu'ils peuvent avoir là ne peut satisfaire que ceux qui sont dans les 100 mètres. Il nous a dit que aussitôt qu'on enlève ta maison ou bien ta plantation, on va t'indemniser au même moment.
Christine Gotelep, conseillère régionale, a également pris part à cette concertation.
Nous avons fait des propositions et il nous a écoutés. Et la preuve, c'est qu'il y a adhéré. Nous allons continuer à faire le travail de sensibilisation auprès des populations pour que le travail avance.
Selon la loi du 4 juillet 1985 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'indemnisation est le préalable avant toute expropriation. Guy Lebrun, en bon mot, est juriste.
En matière d'indemnisation, la loi dit que prévoit deux modes d'indemnisation. Au lieu qu'on donne, par exemple, votre maison coûte 10 000, certains cas. Au lieu qu'on vous donne les 10 000, l'État dit, ok, je ne vais pas donner 10 000 à Jules Emmanuel, je lui construis une autre maison. Si ce n'est pas le cas, on vous donne de l'argent. Donc, c'est les deux possibilités qui sont prévues par la loi.
Au regard des difficultés que rencontre le gouvernement à payer l'intégralité des indemnisations, l'entreprise s'est engagée à anticiper sur les paiements du tracé de 10 km. À cause des blocages des travaux par les riverains, la première phase de l'autoroute Yaoundé-Douala sur un linéaire de 60 km a duré 8 ans et coûté 350 milliards de francs CFA au lieu de 284 milliards selon le coût initial. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur notre site internet voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique, bien sûr.